Canal Académie. L'entretien de la semaine. Rencontre avec une académicienne.
En France, près d'un tiers du territoire métropolitain est peuplé d'essences forestières, une surface importante qui contribue de multiples façons à notre bien-être. Si les forêts sont un allié indispensable pour lutter contre le réchauffement climatique, elles en sont aussi victimes depuis quelques années. Leur contribution dans la réduction du bilan carbone de la France est fragilisée et il est désormais nécessaire de le prendre en compte. C'est l'une des conclusions d'un rapport de l'Académie des sciences publié début juin et qui s'intitule « Les forêts françaises face au changement climatique ». Pour en parler, nous avons le plaisir d'être avec Isabelle Schwinn, directrice de recherche au CNRS, membre de l'Académie des sciences et de l'Académie d'agriculture. Écologue terrestre, elle s'intéresse à la façon dont le vivant est impacté par le réchauffement climatique. Elle a également piloté le comité de rédaction de ce rapport. Isabelle Schwinn, bonjour.
Bonjour.
Alors, ce rapport sur les forêts françaises est important à plus d'un titre. Il résulte d'un énorme travail de synthèse sur l'état des forêts aujourd'hui. L'année 2022, par exemple, a été particulièrement éprouvante pour celle-ci. C'est un constat d'urgence qui a guidé, qui a initié l'écriture de ce rapport ?
Un constat d'urgence, je ne dirais pas ça, parce que en tant que scientifique, ça fait longtemps qu'on voit l'urgence en fait arriver. C'est un travail qui a pris quand même deux ans d'auditions, d'experts sur les différents sujets qui sont abordés dans ce rapport. Mais c'est vrai que l'année 2022, disons que les dernières années qui se sont succédées, en particulier à partir de 2018 à 2022, ont été particulièrement éprouvantes pour tout le monde, je dirais, avec une accélération du changement climatique et de ses impacts.
Dans ce rapport, alors avant de détailler tous les risques auxquels sont confrontées les forêts, aujourd'hui, vous débutez par rappeler à quel point les forêts sont essentielles à la société et au bien-être humain. Vous donnez de nombreux exemples, mais la première contribution qu'on peut retenir de la forêt, c'est qu'elle lutte contre le réchauffement climatique. Qu'est-ce qui explique que les forêts sont les principaux puits de carbone à l'échelle globale aujourd'hui ?
Bien, les forêts, ce sont des arbres avant tout et une végétation de sous-bois également qui est capable de capter le CO2 atmosphérique, donc un des principaux gaz à effet de serre, grâce à leur photosynthèse. Ils transforment ce CO2 avec l'énergie du soleil en sucre, en fait, qui sont ensuite utilisés pour produire les différentes molécules qui serviront à l'élaboration de leurs tissus, du bois, des feuilles, mais également pour produire les molécules de défense contre des ravageurs et des pathogènes. Et quand tout va bien, les arbres produisent plus de sucre qu'il ne leur en faut chaque année et constituent ainsi des réserves au cas où un aléa surviendrait pendant l'année ou l'année suivante de manière à pouvoir faire face à cet aléa.
Elles captent, elles stockent pendant des années, voire des centaines d'années, du CO2. Mais vous expliquez dans ce rapport que ce rôle d'absorption du CO2 est menacé. Il diminue depuis quelques années. Quand est-ce qu'on a commencé à percevoir une baisse d'absorption ?
Le début de cette baisse, disons, c'est une dizaine d'années. On élabore les bilans de carbone sur plusieurs années. En fait, il faut savoir que l'inventaire forestier national, qui prend toutes les données sur le terrain pour élaborer ces bilans, ce n'est pas fait chaque année parce que c'est un travail gigantesque. Une fois qu'on constate une baisse, il faut savoir si c'est juste temporaire, on va dire, ou si c'est une tendance à long terme qui s'installe. Voilà. Depuis 10 ans, cette séquestration diminue et disons que les modèles que l'on a actuellement pour prévoir comment les écosystèmes forestiers vont évoluer et comment ce puits de carbone va évoluer nous disent que malheureusement, on risque de rester dans cette tendance.
Voire de s'aggraver dans les années à venir.
Et voilà, ça risque de ne faire que s'aggraver.
Il y a plusieurs explications derrière ce phénomène-là. Le premier que vous pointez dans ce rapport, c'est la sécheresse, le manque d'eau. C'est vraiment le premier déterminant de l'état sanitaire.
C'est tout à fait ça. C'est-à-dire que les dépérissements que l'on voit actuellement sont dus à ces épisodes de sécheresse. Depuis 2003, en fait, lors de la première canicule que la France a connue, il y avait eu à ce moment-là déjà des mortalités qui ont suivi. Ce n'était pas une mortalité subite, parce qu'il faut savoir que quand une sécheresse est là, si elle n'est pas trop forte, les arbres peuvent récupérer. Ça dépend de l'intensité de la sécheresse qu'il y a eu. Et on a vu dès 2003 que certains arbres ne récupéraient pas. Et dépérissés, c'est-à-dire qu'ils sont affaiblis et du coup deviennent très sensibles aux ravageurs et pathogènes qui précipitent un peu leur mort, si vous voulez. Depuis cette année-là, on savait que si des sécheresses de telle ampleur se répétaient, on allait avoir beaucoup de dépérissements. Et c'est ce qui s'est passé à partir de 2018, où on a eu des sécheresses qui se sont répétées, 2018, 2019, 2020 et surtout 2022. Des sécheresses aussi intenses, voire plus intenses que ce qu'on avait constaté déjà en 2003. Et là, quand une sécheresse se répète comme ça chaque année, là, ça devient vraiment très critique. Tous les arbres ne meurent pas, bien heureusement. Mais en tout cas, ce qu'on a pu constater, c'est que la mortalité dans les forêts avait augmenté de 50% sur la dernière décennie, ce qui est
très important.
Très important.
Ces sécheresses causent un arrêt prématuré de la croissance des arbres, l'arrêt aussi précoce de la photosynthèse, ce qui explique donc la diminution.
Exactement. Ce qui se passe en fait quand la sécheresse s'installe, la première chose qui s'arrête, c'est la croissance. Parce que pour faire de la croissance cellulaire, il y a besoin de pression osmotique dans les cellules, donc il faut de l'eau. Donc c'est la première chose qui s'arrête. Et la deuxième chose, si cette sécheresse continue, se poursuit, ça va être la photosynthèse qui va s'arrêter. Parce que tout simplement, quand un arbre capte du CO2 pour faire sa photosynthèse, il perd automatiquement de l'eau par ses structures. C'est irrémédiable. Et donc, pour ne pas perdre trop d'eau, l'arbre va préférer ne pas perdre le peu d'eau qui lui reste plutôt que de photosynthétiser. Il se met en résistance, il ne photosynthétise plus. Par contre, il respire toujours, comme toutes les plantes respirent. Et c'est pour ça que certaines forêts, notamment dans le sud de la France, deviennent source de carbone pendant l'été, parce qu'elles ne photosynthétisent plus, mais elles continuent à respirer.
Il y a les sécheresses, mais vous pointez un autre phénomène inquiétant qui découle également du réchauffement climatique, ce sont la multiplication des incendies. Donc en 2022, on a décompté un record de surfaces brûlées sur le territoire. Vous expliquez que ce phénomène sera amené à se reproduire dans les années à venir. Est-ce qu'il y a des régions en France qui sont plus exposées ?
Le risque incendie a toujours été relativement important dans tout le pourtour méditerranéen. Le risque incendie augmente partout, globalement en France, du fait du réchauffement. Donc le réchauffement et la sécheresse amènent la végétation l'été dans un état de déshydratation qui la rend très inflammable, donc à des probabilités de départ de feu et surtout de propagation du feu sur des grandes surfaces qui deviennent importantes. Les projections que l'on fait avec l'évolution du climat en fonction des différents scénarios d'émissions qui vont se réaliser, mais montrent que la partie sud-ouest notamment va devenir très à risque. Augmentation forte du risque incendie dans ces régions-là. Mais l'année 2022 nous a montré aussi que ces incendies pouvaient toucher des régions bien plus au nord, nord de la Loire, là où le risque était très faible. Donc ce risque va augmenter aussi dans ces régions-là, mais les régions les plus à risque restent la partie pourtour méditerranéen et le sud-ouest.
Alors, on peut penser à modéliser plusieurs scénarios possibles pour imaginer donc à quoi ressembleront les forêts françaises de demain. Ce qui est certain, c'est que le paysage de nos forêts va changer. Les climats sont déjà en train de changer. Par exemple, le bassin parisien, dans quelques années, il sera plus proche de celui méditerranéen. Est-ce qu'on a une idée du temps que ça va prendre, cette transformation du paysage ?
Les modèles qui nous servent à prévoir justement quels seront les paysages, mais en tant que chercheur, en fait, on ne travaille pas vraiment sur les paysages, on travaille sur ce qu'on appelle la répartition géographique des espèces qui composent ces paysages. Donc moi, je travaille sur ces modèles pour des arbres forestiers. Ces modèles nous disent globalement quelle sera on parle en termes de probabilité de présence de ces essences d'ici la fin du siècle, donc en France ou en Europe. ces modèles nous montrent que, en fait, ce qu'on voit déjà actuellement va se poursuivre, c'est-à-dire qu'actuellement, toutes les espèces, hein, animales et végétales, sont en train de se déplacer vers les pôles, donc vers le nord pour en France et vers les sommets des montagnes, à une vitesse bien sûr qui varie en fonction de leur capacité de migration, de dispersion. Donc bien sûr, c'est beaucoup plus faible pour la flore, pour les plantes. On voit par exemple que le chêne vert, qui est une essence méditerranéenne par excellence, comme le pin d'Alep, qui sont des essences qui résistent normalement bien à la sécheresse et aux canicules, mais quoique elles montrent aussi des signes de dépérissement en Méditerranée, eh bien on voit qu'elles remontent déjà vers le nord. Si vous voulez, la forêt française va changer comme tous nos paysages, mais à une vitesse qu'on n'est pas capable de prédire, notamment parce qu'on ne sait pas quel scénario d'émission va se réaliser. En fait, c'est la principale incertitude que l'on a, parce que les outils que l'on a, les outils mathématiques, les modèles, nous disent si c'est tel scénario, voilà jusqu'où le chêne va pouvoir remonter. Ensuite, ces déplacements d'espèces, ils sont bien sûr aussi très dépendants du morcellement des habitats naturels, du fait de l'urbanisation, du fait des infrastructures qui morcellent ces habitats. Et c'est pour cela qu'on a établi la trame verte et bleue et maintenant la trame noire, c'est-à-dire des connexions entre les habitats pour que les espèces puissent se déplacer plus facilement. Et ça va être fondamental pour elles maintenant pour réussir à suivre le climat, que les espèces suivent les conditions climatiques dans lesquelles elles sont capables de survivre. Et c'est leur principal moyen d'adaptation, entre guillemets, puisque l'adaptation au sens darwinien du terme, l'évolution génétique, prendra beaucoup trop de temps en regard de la vélocité du
changement climatique. Le temps de la forêt est beaucoup plus long que le temps du réchauffement climatique. On a passé en revue les principaux risques auxquels les forêts sont confrontées aujourd'hui. Mais face au réchauffement climatique, nous ne sommes pas complètement démunis. Alors évidemment, pour résoudre ce problème, il ne suffit pas non plus de planter en masse partout en France. C'est plus compliqué que ça. Une des solutions qui est discutée, ça serait donc d'introduire, vous en parliez tout à l'heure, d'introduire des espèces plus résilientes en France.
Effectivement, notamment dans le sud de la France, où ça va être difficile de trouver des essences qui seront adaptées à ces conditions-là. Si vous voulez, dans le nord de la France, ce qui se fait déjà, c'est qu'on vient chercher des espèces plus méridionales. On les introduit plus au nord. En fait, on les aide, si vous voulez, à migrer. C'est ce qu'on appelle de la migration assistée par l'homme. Il y a un projet de l'ONF qui s'appelle Giono, qui a commencé déjà il y a quelques années pour cela. Donc, c'est un peu expérimental, mais dans la partie méridionale, on ne sait pas vraiment ce qui pourra
se substituer
aux espèces existantes, notamment parce qu'avec des conditions encore plus chaudes et plus sèches que ce que l'on a actuellement, ça va être très difficile en fait de maintenir un couvert forestier. On risque d'arriver dans des situations climatiques où on ne pourra pas en fait maintenir un couvert forestier dans ces régions-là. On va aller vers des densités, ce qu'on appelle des densités de peuplement beaucoup plus faibles, pour aller jusqu'à peut-être une forme stépique. Donc voilà, donc pour l'instant, on a introduit déjà le cèdre il y a quelques années en France, et notamment dans le sud de la France, dans plusieurs régions. Actuellement, le cèdre du Liban ou de l'Atlas se porte encore bien. Cette essence va pouvoir remplacer celles qui n'arriveront pas à se maintenir dans ces régions-là. Et plus au nord, mais c'est de l'expérimentation qui a lieu actuellement. On essaye des choses et
on commençait aussi à introduire des espèces d'arbres étrangers, en fait, qui viennent pas de France, mais par exemple du Portugal, de l'Espagne.
Oui, comme le cèdre.
Comme le chêne zen, par exemple.
Oui.
Mais on en est encore à un stade expérimental.
Totalement. D'ailleurs, on n'a aucun recul sur.
Il n'y a pas de consensus non plus derrière.
Non plus. En fait, la recherche se fait, la science se fait rattraper par le changement climatique. Si vous voulez, effectivement, la forêt, ça demande un temps très long. Expérimenter sur des arbres, ça demande des années et des années. Donc, malheureusement, non, on n'a pas toutes les réponses aux questions que l'on se pose actuellement.
Les arbres ont la chance d'avoir une plasticité plus ou moins grande, donc ils peuvent quand même s'adapter plus ou moins au réchauffement climatique. Est-ce qu'on peut compter aussi sur une transformation génétique des arbres ?
Oui, alors les arbres sont extrêmement, on dit plastiques dans notre jargon. En fait, ça veut dire qu'ils sont capables de s'acclimater à des conditions très différentes, hein, d'une journée à l'autre, d'une année à l'autre. Mais on sait qu'elle a des limites. Cette plasticité, cette capacité à s'acclimater. Et en fait, la réponse des arbres à un climat plus chaud et plus sec, pardon, c'est de faire moins de feuilles. Ça, on l'a montré expérimentalement. C'est une manière de s'adapter, puisque moins de feuilles, moins de transpiration. Donc, on économise son eau. Mais qui dit moins de feuilles dit moins de croissance, donc dit moins de séquestration aussi du carbone. Donc cette plasticité a des limites, on les connaît, et l'adaptation ultime, ensuite c'est l'évolution génétique au sens darwinien, mais pour avoir cette évolution génétique, alors chez des arbres, ça demande énormément de temps. Pourquoi ? Essentiellement du fait des temps de génération qui sont très longs. Actuellement, beaucoup d'espèces s'adaptent en temps réel au changement climatique. Par exemple, le moustique, qui est une espèce qui a des temps de génération très courts, qui fait beaucoup de générations par an, qui a des grandes tailles de population et beaucoup de diversité génétique. Donc la sélection naturelle est très efficace dans ce cas-là. Par contre, voilà, les arbres, on n'est pas du tout dans la même configuration. Donc, une évolution génétique, oui, elle a lieu, mais on sait qu'elle sera beaucoup, beaucoup trop lente, oui. Toujours, encore une fois, par rapport à l'évolution, la vitesse d'évolution du climat.
On n'a pas assez de recul encore. Parmi les autres recommandations que vous faites dans ce rapport, vous recommandez notamment de diversifier les essences forestières. En quoi la diversité des essences va favoriser le stockage du carbone dans les forêts ?
Alors, augmenter la diversité en essences aide surtout, dans un premier temps, à s'adapter au changement climatique. Et notamment parce que une forêt plus diverse permet de limiter les dégâts des ravageurs et des pathogènes. Ça a été bien montré. Ensuite, il y a eu d'autres études qui ont essayé de voir si augmenter cette diversité permettait à la forêt d'être plus résiliente à une sécheresse, par exemple. Et là, les résultats sont moins clairs, c'est-à-dire que ça va dépendre en fait du mélange que l'on a et des espèces en présence. Si ces mélanges d'essences permettent une meilleure résilience, cela permettra également de maintenir un niveau de séquestration du carbone qui sera meilleur que si la forêt n'était pas capable de résister aussi bien au changement climatique.
Mais il me semble que vous dites, vous précisez dans le rapport que 50% des forêts françaises sont en mono-espèce, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule essence forestière derrière, ce qui semble peu au final. Est-ce qu'il faudrait introduire de nouvelles espèces pour favoriser cette diversité ?
Effectivement, 50% des surfaces sont monospécifiques, donc une seule essence présente. Et c'est pour cela que l'on recommande dans le rapport d'augmenter le nombre d'essences plantées quand on replante, hein, parce que c'est difficile de faire évoluer un peuplement qui est déjà là si on... Si on ne coupe pas et qu'on ne replante pas derrière, ça demande beaucoup de temps. Mais en tout cas, pour les forêts exploitées qui sont coupées pour être replantées derrière, on recommande d'augmenter fortement, si possible, le nombre d'essences plantées. Et en particulier, le mélange entre ce qu'on appelle les feuillus et les résineux, qui montrent, dans les études qui ont été faites... qui semble être la meilleure assemblage, oui.
À mettre en place. Ce qui semble être une recommandation pas très évidente à mettre en place en raison de la multiplicité des acteurs, puisque en France, déjà 75% des forêts sont privées sur le territoire, et puis il y a des acteurs forestiers, il y a les acteurs de la filière bois. J'imagine que cette multiplicité d'acteurs ne facilite pas la mise en place de toutes ces recommandations.
C'est vraiment une situation très, très difficile, hein, oui, actuellement. Et les forêts sont utiles, entre guillemets, pour beaucoup de choses pour nous, les êtres humains. On les utilise pour le bois énergie, pour le bois construction et pour d'autres produits issus du bois comme le papier Donc on a besoin d'exploiter aussi nos forêts, sinon on va être obligé d'importer ces produits de l'étranger, et ce qui n'est pas bon non plus pour le bilan de carbone de la France. Donc il faut absolument que la filière bois française puisse relever les défis actuellement et surtout investir dans les produits à longue durée de vie, les produits bois à longue durée de vie qui seront garants d'une séquestration du carbone pendant
plus
un temps
suffisamment
long pour nous permettre d'atteindre la neutralité carbone en 2050.
Préconisé dans la feuille de route. Justement, on va en parler dans quelques instants. Mais avant ça, tout à l'heure, vous pointiez un déficit des connaissances dans la recherche, notamment, qui sont un véritable obstacle pour comprendre concrètement, réellement, comment fonctionne le bilan carbone des forêts. Et la conséquence capitale de ce déficit de connaissances, c'est que dans les feuilles de route, justement, dans les stratégies qu'on bâtit, on ne prend pas assez en compte ces nouvelles conditions climatiques qui impactent les forêts. Et d'ailleurs, c'est une des conclusions de votre rapport. Vous constatez que les objectifs gouvernementaux actuellement mis en place pour lutter contre le réchauffement climatique, aujourd'hui, ils ne pourront pas être tenus et qu'il faut les réviser.
Oui, le rapport montre que la séquestration du carbone par les forêts diminue. Or, la stratégie nationale bas carbone, donc cette stratégie qui doit nous amener en 2050 à la neutralité carbone, prévoit que les forêts jouent un très grand rôle.
Un rôle moteur.
La séquestration des émissions qu'on ne pourra pas arrêté en 2050. Donc en 2050, il est prévu qu'on atteigne la neutralité avec 80 millions de tonnes de CO2 émis pour 80 millions de tonnes de CO2 absorbées. Et dans cette absorption, les forêts jouent un rôle essentiel dans la stratégie. Or, comme leur pouvoir de séquestration est en train de diminuer
à cause du réchauffement climatique,
Il est vraiment urgent de réviser cette stratégie, puisque en l'état actuel, on sait qu'on n'atteindra pas là, les objectifs prévus.
Et c'est justement l'une des conclusions, recommandations de ce rapport. Est-ce qu'il y a déjà eu certaines retombées, des réactions particulières politiques suite à la publication de ce rapport ?
Oui, donc les auteurs du rapport auront un entretien avec Marc Fesneau au fin juillet, pour discuter de ce rapport, et début septembre avec Bruno Le Maire.
D'accord, pour voir si cette feuille de route va éventuellement évoluer. Ce rapport n'est pas destiné qu'à une frange politique, il s'adresse à toute la société civile, et dedans, d'ailleurs, on peut trouver des séries d'illustrations qui servent à éclairer, appuyer vos propos. Est-ce que c'était une vraie volonté de votre part qu'il soit lu et partagé par le plus grand nombre de personnes et pas destiné uniquement à un public expert de scientifiques ?
Oui, tout à fait. C'était un de nos objectifs, de faire un rapport court, concis et illustré. Et effectivement, c'est personnellement quelque chose qui me tenait à cœur, parce que je suis assez investie dans la vulgarisation scientifique sur ces thématiques. Et je sais que des belles illustrations aident à la compréhension, mais sont aussi utilisées en fait comme support pour communiquer par d'autres personnes qui ont lu le rapport. Et je pense que l'objectif a été atteint. En tout cas, c'est ce qu'on... on a eu des bons retours sur ce point.
Alors, justement, on reproche parfois aux médias français de ne pas couvrir assez les questions environnementales. L'exemple le plus frappant étant avec les rapports du GIEC, on reproche souvent le fait qu'il suscite des réactions assez timides de la part de la presse. Est-ce que vous diriez que les médias, la presse de façon en général, n'est pas assez formée à toutes ces questions climatiques et ces enjeux environnementaux ?
Je dirais que la presse, globalement, en France, n'est pas très formée sur les sujets scientifiques en général. Sans doute parce que le cursus universitaire des journalistes est plutôt littéraire. C'est la même remarque que je ferai sur les enseignants, et notamment de primaire. Parce que j'ai eu l'occasion de travailler avec des enseignants dans le cadre d'un programme de sciences participatives que je pilote. Et j'ai fait le même constat. Donc, par contre, je trouve qu'il y a une évolution. Ces dernières années, j'ai noté qu'il y a eu un réel changement dans la façon de traiter ces sujets, dans la presse, dans les médias en général, et que les journalistes et les enseignants, d'ailleurs, étaient très demandeurs de formation et d'information. Et donc, on est beaucoup plus sollicité qu'auparavant.
Pour finir, une question un peu plus ouverte. Le changement climatique ne connaît pas de frontières. Toutes les forêts, et pas uniquement les forêts françaises, sont impactées par ce réchauffement climatique. Est-ce que vous avez en tête des exemples de pays qui auraient anticipé ce phénomène et mis en place des politiques modèles dont on pourrait s'inspirer ?
En ce qui concerne la forêt, moi qui ai travaillé un temps au Canada, Canada anglophone, en Colombie-Britannique, mes collègues canadiens. C'est aussi lié au fait que le Canada est une économie dans laquelle la forêt a une grande importance. Hein, mais les aspects migration assistée dont je parlais tout à l'heure, voilà, ça fait une quinzaine d'années qu'ils ont commencé à les pratiquer de façon expérimentale. Donc oui, certains pays ont anticipé, peut-être plus que la France, mais c'est aussi, encore une fois, lié à l'importance de la forêt dans l'économie de ce pays. Et je ne connais pas d'autres pays, en fait, qui ont autant anticipé
ces phénomènes.
Oui.
Un grand merci, Isabelle Schwinn, d'avoir pris le temps de commenter et d'expliquer ce rapport à notre micro. À vos côtés, je cite le nom des autres auteurs qui ont participé à sa rédaction, Philippe Siet, Wolfgang Kramer et Jacques Lascar. Et donc ce rapport est à découvrir sur le site de l'Académie des sciences, en libre accès. Merci beaucoup.
Merci.
Canal Académie.